tout seul, tu sais. Pas d'argent, pas de maison. Pour toi, il y aura moi. Pour moi, il n'y aura que toi.
Je cultive mon mystère.
Je sais pas, j'ai l'air de vous allumer.
Non, tu sais, c'est un état d'esprit qu'on a perpétuel et c'est pas la haine.
Je serai toute ma vie marqué par ce livre et qui sera comme l'horizon indépassable de mon travail.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
D'abord une lumière rouge qui surgit, ensuite une voix claire, chaude et mélancolique. Des mots qui s'enchaînent sans balbutiement ou autre hésitation. Les paroles d'une jeune femme, une productrice radio, celle qui réunit chaque dimanche à 10h plus d'un million d'auditeurs. 5 ans déjà qu'elle a eu domicile au 116 avenue Kennedy, l'adresse de la maison ronde, couleur rouge. Du baroque au burlesque, la journaliste est tout un monde. Celui de la culture d'abord, sa passion la plus fidèle. Elle connaît ses cartes. Quartier par cœur, Arte, France Culture, Les Inrocks, aujourd'hui France Inter. Alors comme remède à la mélancolie, elle prône une curiosité tout aussi insatiable qu'éclectique. L'art pour l'art. Résolument libre, intelligente et sensible, une allure iconique, de grands yeux sombres et une frange infaillible. Un nom d'héroïne romanesque. Eva Bester, queen du blues et l'invitée de Radio Poulpe.
Mesdames, mes aliens, messieurs, bonsoir. C'est Barbara Carlotti, chanteuse interstellaire, qui vous parle en direct de la plateforme de communication orbitale de France Inter. Nous flottons actuellement dans l'hyperespace de la musique. Notre mission, procéder à une exploration intensive du cosmos et défier les lois de la gravitation musicale.
Eva Bester, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
On écoutait le générique de Cosmic Fantasy, la formidable émission produite par Barbara Carlotti en 2013 et 2014. Eva Bester, tout comme Cosmic Fantasy, votre émission, c'est une bulle de temps qui nous plonge chaque dimanche dans un univers poétique singulier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur de la radio, c'est de produire un journalisme différent ?
Alors, je pense que pour produire un journalisme différent, il ne faut pas se positionner en se disant « je voudrais produire un journalisme différent ». C'est la meilleure façon de ne pas en faire du différent. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je me suis jamais posé comme question. Après, je n'irai pas jusqu'à avoir la prétention de dire que je produis un journalisme différent, mais c'est ce que vous semblez induire et ça me touche beaucoup. Mais je pense que quand on cible, quand vouloir à tout prix de l'originalité empêche d'avoir une vraie originalité.
Quel était le métier que vous rêviez de faire, enfant ?
Il me semble que c'était journaliste, mais comme dans le dessin animé des Tortues Ninja, c'est-à-dire d'être vraiment sur le terrain, prête à couvrir toutes les affaires.
Reporter.
Ouais.
Et justement, étant jeune, c'était quoi votre relation à la culture ?
Oh là, c'était il y a très longtemps. ma relation
dans votre
à la
enfance,
culture,
surtout.
En fait, la culture, ça m'a vraiment sauvée, c'est-à-dire que je trouve ça extraordinaire d'avoir un trésor sans cesse accessible dans les bibliothèques municipales, par exemple, où gratuitement on peut avoir accès à tous les livres qu'on veut. Internet, aujourd'hui, il y a vraiment des archives formidables qui sont à disposition en permanence et on peut se fuir soi-même, déjà, ce qui est quand même quelque chose que beaucoup de gens font, que j'ai fait pendant très longtemps, s'extraire de soi, qui est la première façon de fuir la mélancolie, selon moi, et s'enrichir, en fait. Et je pense que là, j'ai aucune chute pour cette phrase, mais comme je voudrais une contenance, je continue à parler. Allez-y.
Et qui est-ce qui vous a ouvert à la culture au début ? Vous toute seule ou...
Moi toute seule parce que je suis très curieuse de nature. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui encourageaient la lecture. Et puis à l'école, on allait à la bibliothèque municipale. Alors je sais que j'arrête pas de rabâcher la bibliothèque municipale, mais je trouve ça important parce qu'il y en a dans toutes les villes de France. Et vraiment, je sais que j'ai plein d'amis qui n'y pensent pas forcément. Et en fait, ce qui est formidable là-bas, c'est que déjà, on n'est pas tributaire de l'actualité, de l'urgence. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, justement, le fait d'être atemporel, le fait de prendre son temps pour déguster, pour savourer vraiment des livres et pas toujours se dire « Oh là là, ça vient de sortir, il faut que je le lise » et puis on ne lit pas de la même façon, on lit en diagonale, on n'est pas disponible pour ça. C'est un autre rapport au temps. Et est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui,
je suis
oui.
Très fouillée, pardon, j'ai pas l'habitude de ne pas poser les questions.
Et justement, ensuite, dans vos études, à quel moment le journaliste s'est imposé comme un potentiel avenir ?
En fait, c'était presque un hasard. J'ai fait une fac d'anglais qui m'a servi absolument à rien professionnellement, à part à prendre beaucoup de plaisir. Et pendant mes études, France Culture recherchait un stagiaire. Il y a toujours des stagiaires qui tournent à Radio France. Ils recherchaient un stagiaire pour l'émission Les Chemins de la Connaissance, à l'époque où ça traitait de toutes les sciences sociales. Et j'ai eu la chance d'être prise. J'ai donné mon CV, ça convenait. Et puis je me suis retrouvée à devoir dénicher des textes que les comédiens lisaient. Donc j'étais fourrée à la bibliothèque, ce qui est un paradis pour moi. Je dénichais des textes et ensuite j'étais sur Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, l'émission d'histoire. Et je choisissais les archives à l'INA. Donc je passais des heures dans des cellules de l'INA à écouter des bobines sur tous les sujets du monde. Et pour moi c'était fascinant parce que je me disais c'est génial quand même. Mon travail consiste à être curieuse, à découvrir des choses et à m'interroger. Moi, j'ai toujours fonctionné par correspondance. Quand quelque chose m'intéresse, que ce soit un auteur ou un sujet ou un peintre, je vais regarder ses influences et puis après, je vais creuser du côté des influences. Puis je vois qu'ils ont été influencés par quelqu'un d'autre à la période d'avant. Et c'est comme ça qu'on découvre sans cesse des choses. Et c'est inépuisable, ça. Et de se dire que rien que ça justifie de rester en vie, en fait.
Donc vous avez un peu découvert le journalisme comme une source d'émancipation personnelle plus que comme une voie professionnelle au départ ?
Ouais, mais émancipation personnelle, ça fait un peu de développement personnel. ouais, évidemment, ça m'a comblé, ça m'a enrichi, ça m'a intéressé.
Est-ce que c'était directement quelque chose de professionnel vraiment ou c'était un loisir à côté des études ? Enfin...
Non, c'était professionnel directement. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pourrais passer ma vie à me renseigner sur des choses. Vraiment, je crois que c'est ce qui me passionne le plus, me apprendre.
Et vous vous êtes d'abord tournée vers la radio, pour quelle raison ?
Je sais pas, c'est vraiment un hasard je pense, mais quand j'étais petite, je faisais des interviews d'objets ou de personnages imaginaires que j'enregistrais sur cassette. Donc je posais les questions et j'imaginais les réponses, donc on a des cassettes où je parle toute seule et où il n'y a pas de réponses qui sont très gênantes, que je n'ai pas retrouvées, j'espère que ça n'arrivera jamais. J'adore l'art de la conversation. Et j'adore poser des questions aux gens, j'adore découvrir... Non mais là, j'ai l'air d'une Miss France, mais j'adore découvrir des choses, vraiment. Je suis curieuse des êtres, des choses, des livres. Et je pense que ça, je ne m'en lasserai jamais, en fait, de chercher, de dénicher, de poser des questions, de creuser, de découvrir.
Et la radio, en tant qu'auditeur ou face à l'information, c'est le média qui vous a tout de suite le plus parlé ?
C'est le média que je préfère. Non, j'aime beaucoup la presse écrite aussi. On dit toujours que ça va être la fin de la presse écrite. N'empêche que je préfère vraiment avoir une revue ou un magazine ou un journal dans les mains plutôt que quelque chose qu'on consomme sur Internet, qu'on lit pas de la même façon. Et la radio, en fait, ce que j'aime, contrairement à la télé, c'est qu'il y a une intimité qui s'instaure dans la conversation. Et je sais que très petite, j'écoutais la radio. J'avais une petite radio Fisher-Price que je mettais la nuit en cachette. Et j'avais l'impression d'être inclus, de faire partie de la conversation, d'être avec les gens que j'écoutais parler. Et c'est ça que j'adore, la radio.
On écoute Jacques Chancel et Pascal Clark évoquant la différence entre télévision et radio.
Il y a le parallèle que l'on peut faire entre la radio et la télévision. Et c'est vrai que ce sont deux formes d'expression tout à fait différentes. À la radio, j'ai la chance d'avoir une heure, mais une heure complète, une heure totale, que je partage avec quelques-uns et avec quelqu'un. Et que, en plus, je ne suis troublé, jamais troublé, même par un livre. À la télévision, nous faisons un spectacle. Je ne peux pas aller aussi loin avec quelqu'un.
Oui, si on se creuse un peu la tête, si on fait appel à des choses très intimes, ça ne me gêne pas. Enfin, l'intime n'est pas tabou, n'est pas vulgaire. Tout dépend de la façon de faire, voilà. Et puis, est-ce que l'autre vous donne ? Tant qu'il donne, ça va. Il peut aussi donner, il peut aussi laisser entrevoir. On sait bien que c'est pour ça que je préfère la radio à la télé. C'est que la radio laisse entrevoir et que la télé est une pute et montre tout, non ?
La télé est une pute.
Eva Bester, en 2012, après justement quelques expériences en radio, vous faites un passage éclair par la télévision dans l'émission 28 minutes d'Elisabeth Quint. Depuis plus jamais, pourquoi ?
Alors, j'ai eu pas mal de propositions que j'ai déclinées parce que j'aime pas vraiment la télé. En fait, je suis pas très à l'aise à la télé et je suis pas complètement fermée à la télé. En revanche, si un jour j'accepte quelque chose, j'aimerais que ce soit quelque chose qui fasse sens pour moi, qui me ressemble un petit peu, ou quelque chose où je puisse apporter en fait quelque chose. Si c'est une chronique que tout le monde peut faire, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt. Autant prendre quelqu'un d'à l'aise qui a envie de faire de la télé absolument, ce qui n'est pas mon cas.
Et dans votre carrière jusqu'à maintenant, enfin, est-ce que vous avez déjà eu des mentors ou des personnalités qui ont particulièrement compté dans ce que vous êtes aujourd'hui ?
Jacques Chancel, qu'on entendait, Pierre Dumayet.
En tant qu'influence ou...
Oui, en tant qu'influence. Fait... quand je vois les interviews d'écrivains de Pierre Dumayet à la télévision, avec sa bienveillance, sa curiosité, son écoute, sa générosité, le fait qu'il soit... qui reste vraiment accessible pour les téléspectateurs et qu'en même temps ce soit intelligent, c'est un de mes modèles. Vraiment.
Et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire de la radio à la télévision finalement, que c'est juste deux manières d'aborder l'information différente, mais qui ne sont pas que dépendantes du support ?
Je ne pense pas qu'on puisse faire la radio à la télévision. On fait aujourd'hui de la télé très mal filmée en filmant la radio, mais à la télévision... c'est pas la même chose. Pour avoir fait un an de chronique sur Arte, je sais qu'à la télévision, déjà, on peut pas parler aussi longtemps. Les gens s'ennuient, les gens décrochent, ils regardent l'image et puis ils jugent sur ce qu'ils voient. Je sais qu'à la radio, je reçois plein de mails d'auditeurs qui parlent du contenu. À la télévision, ça parlait beaucoup de l'image et de la surface. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc.
On écoute Pascal Clark et Laura Adler, respectivement interviewés par Guillaume Erner et Kathleen Evin, évoquer leur rapport au tract.
Non, j'ai pas la boule, j'ai plus la boule, je vais pas vous mentir. Parfois, il y a une espèce de trac qui me tombe dessus, mais généralement sans raison apparente.
Bah, le rouge, quand le rouge est mis comme on dit.
Non, j'ai plus la boule, j'ai plus la boule.
Mais ça vous fait bien quelque chose.
Ça fait quelque chose, mais qui n'est plus de l'ordre du trac, qui est de l'ordre plutôt de la concentration et de cette espèce de mutation dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que je deviens à la fois... totalement moi-même, mais ça il faut des années, mais moi-même au mieux.
Ah, mais je trouve que faire de la radio c'est très dangereux. Quand j'arrive dans un entretien, je suis très angoissée, avec une respiration complètement coupée, et pourtant ça fait longtemps que je fais de la radio, je suis pleine de trac, et c'est quelque chose qui en même temps paradoxalement me plaît, cette espèce de peur panique. Voilà, c'est une peur panique que de faire de la radio. En fait, je
crois
que
c'est... rencontre.
Voilà, vous avez dit le mot principal. En fait, c'est la rencontre. Je crois que c'est que des yeux, la radio.
Vous-même, Eva Bester, comment a évolué votre rapport au trac au fil des années passées à la radio ?
Ah, j'ai toujours eu le trac. Je fais beaucoup de « e », ce qui est moins le cas dans mon émission, mais c'est très bizarre de passer de l'autre côté du micro. Encore. Le trac, je l'ai toujours. Peut-être un peu moins qu'au tout début. J'essaye de faire, en fait, c'est une sorte de gymnastique mentale. Je me force, je travaille énormément, je travaille trop. C'est un défaut, une qualité parfois. Mais je me force, la veille d'une émission en tout cas, à vraiment, une fois que j'ai terminé de rédiger l'émission, j'essaye de ne plus y penser. Parce que si je commence à penser à la rencontre avec l'invité, je suis terrorisée. Et je me dis, oh là là, mais comment je vais faire ? Mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à tenir une heure de conversation avec un invité. Il faut pas y penser, en fait. Il faut juste travailler ce qu'on peut faire au mieux. Et puis, une fois qu'on est là, c'est vrai, j'entends souvent ça chez mes confrères et mes consoeurs, mais quand le rouge du micro s'allume, il y a une sorte de petit miracle qui se produit. Et c'est aussi le fait qu'on soit tourné vers l'autre, encore une fois, plus sur soi. On s'extrait de soi, on arrête de se regarder, on est vraiment curieux de l'autre, vers l'autre. Et on n'a plus le tract puisqu'on l'interroge.
Et est-ce que vous aimez aussi un peu le tract ? Justement, juste avant l'émission, la lumière rouge, par exemple.
Non, je ne peux pas dire que je l'aime beaucoup parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé naturellement. Et si je pouvais l'être un peu moins, ce serait bien. Mais en même temps, peut-être que je ne ferais pas la même émission si je ne l'avais pas du tout.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
Thank you.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
C'était The Feeling When You Walk Away d'Yves Tumor. Vous écoutez toujours Radio Poulpe et nous sommes toujours en compagnie d'Eva Bester. Eva Bester, dans Remède à la mélancolie sur Inter, vous rassemblez chaque semaine plus d'un million d'auditeurs. Est-ce que vous attendiez un tel succès?
Ah non, pas du tout.
Et donc, vous le vivez comment?
En fait, je me rends vraiment pas compte. La moyenne d'écoute, c'est 1 500 000 auditeurs. Et pour moi, en fait, au-dessus de 100 personnes, j'arrive plus à compter. Donc, je trouve ça fabuleux, mais je me rends pas du tout compte de ce que ça
vous
représente.
Vous n'avez pas du tout à le concevoir.
Non.
Mais du coup, justement, votre rapport à l'auditeur, il est comment?
Alors, pas à l'audience.
Non, à l'auditeur, quoi.
Eh ben, en fait, je les vois pas, les auditeurs, mais vraiment, ils sont tout le temps présents à mes côtés. Et je m'adresse à eux. C'est très bizarre de s'adresser à un groupe et pourtant de s'adresser vraiment à chacun individuellement. Mais c'est ce que j'essaye de faire.
On écoute justement Laura Derr qui explique sa conception de la radio et du rapport aux auditeurs.
Parce que je crois que faire de la radio, c'est l'oubli de soi. C'est d'essayer d'approcher le partage avec nos auditeurs qui sont invisibles. C'est ça qui est, je crois, la définition de notre statut temporaire de producteur de radio. C'est d'être dans ce lien avec chaque auditeur. Et pour ce faire, je crois qu'il faut s'oublier complètement.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette
parfaitement, définition? Je crois même que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Que d'un coup, on s'extrait de soi, on n'est plus en train de se regarder, on est vraiment tourné vers l'autre.
Et ça, c'est quelque chose ici qui est un peu différent en radio qu'en télé? On oublie sa présence physique?
Je pense qu'en télé, on est un peu plus conscient de soi, parce qu'il y a l'image et... En radio, par exemple, je fais des grimaces, je fronce les sourcils, j'opine du chef de façon extatique pour encourager l'invité à se livrer. Ce que je pourrais pas faire en télé. Donc en télé, on est obligé de se tenir droit, de pas mettre les doigts dans son nez, enfin, je sais pas. Ouais. Donc je pense qu'on est plus conscient de soi en télé, mais j'ai pas une si grande expérience que ça de la télé. Mais dans mon souvenir, ouais.
Fantasque, burlesque ou même baroque, plusieurs adjectifs s'imposent lorsqu'on vous écoute. Pensez-vous qu'une émission radio doit être à l'image d'un film ou d'un livre doté d'une esthétique singulière?
Je suis pas sûre d'avoir la réponse.
C'est-à-dire, d'où vient finalement l'identité d'un programme radio?
Ça vient... Alors là, je sais pas. J'ai envie de vous dire peut-être de la personne qui l'anime, mais en même temps, il y a deux types de programmes radio, je pense. Il y a des programmes radio où des producteurs peuvent vraiment tourner et l'animer de façon indifférente. Mmh. Et puis quand il y en a qui est en vacances, on le remplace par un autre. Mais sinon, ça vient sans doute de la personnalité. Et puis c'est pas vraiment vrai ce que je dis, puisque une matinale, par exemple, qui est une des choses les plus communes, entre guillemets, si on remplace le producteur, c'est plus la même matinale. Mmh. Donc vu que c'est un être humain qui s'en charge, de toute façon, il y aura l'empreinte de la personnalité de la personne qui s'en charge.
Parce que je sais que par exemple, quand on allume son poste radio, il y a certaines émissions qu'on reconnaît immédiatement, alors que d'autres moins. Et votre émission, par exemple, on la reconnaît immédiatement.
C'est gentil. Peut-être, aussi... je pense qu'il y a des gens qui...
Oui, c'est aussi lié à votre voix. Mais
Sans doute.
Mais je trouve un environnement sonore qui correspond à plusieurs choses, qui fait qu'une émission radio a une identité particulière. Dans son tout.
C'est gentil, mais j'ai l'impression que ça, c'est plus quelque chose que je peux recevoir de votre part comme un compliment plutôt que
oui,
de le commenter.
Oui. Et justement, est-ce que l'objectif de votre émission, c'est aussi de mettre en lumière une certaine poésie et esthétique de la mélancolie?
En fait, je me suis jamais dit que j'allais mettre en valeur une esthétique de la mélancolie, mais peut-être que c'est ce qui se produit finalement. Étant très mélancolique de nature... autant en faire quelque chose de beau. Et puis, quand il y a une émulation comme ça entre deux personnes, qu'on parle d'art et qu'on se conseille des choses et que ça donne aux auditeurs envie de lire un livre, de regarder un film, je trouve ça extraordinaire. Rien que ça, c'est extraordinaire.
Parce que justement, vous proposez des contenus culturels autour de la mélancolie toujours, et ça, et je trouve que ça amène une certaine esthétique.
Merci.
J'ai lu, Eva Bester, que vous faisiez du karaté, l'art du contre-pied. Vous le pratiquez avec fidélité dans Remède à la mélancolie. Surprendre, c'est quelque chose que vous aimez bien?
Ouais, j'aime bien, mais je ne mets pas ça en tête comme objectif, parce que c'est pareil que l'originalité, en fait. Je pense que si on est obsédé par ça,
Ok. Et à vous écouter, on ne peut pas douter que la culture, elle soit inhérente à la radio. Pourquoi, selon vous, la radio, c'est un média privilégié de la diffusion de la culture? Pourquoi elles vont si bien ensemble?
Je me demande si c'est pas parce que c'est plus accessible que l'écrit, puisque ça demande moins d'efforts d'écouter. Parce qu'on peut faire autre chose en même temps, plutôt que de se concentrer sur un texte. Par exemple, un texte très long, ça peut être dissuasif. Alors que la télé, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette image qui fait qu'on se concentre sur quelque chose de plus superficiel et qu'on a moins d'attention pour un vrai dialogue profond pendant longtemps. Ça peut arriver, évidemment, je ne veux pas faire de généralité. Il y a des émissions de télé où on a entendu des choses intelligentes. Mais à la radio, c'est plus fréquent.
C'est aussi pour ça que vous êtes tournée à la radio dès le départ. C'est celle qui avait une sensibilité pour la culture la plus développée.
J'ai pas choisi. Non. Ça n'a pas été délibéré.
En proposant votre...
C'est vraiment, c'était il y a plus de 10 ans. Oui. Et voilà, il y avait une place de stagiaire sur une émission radio et il fallait dénicher des livres et ça m'a tout de suite passionnée.
Quand certains revendiquent une culture engagée qui défend et dénonce à tue-tête, comme vous le disiez tout à l'heure, vous prenez une culture plus atemporelle qui se confond bien plus volontiers dans les sentiments que dans l'actualité. Pourquoi c'est important pour vous ?
Parce qu'aujourd'hui, justement, avec tous les réseaux sociaux, les médias, l'urgence, je me demande ce qui a encore de la valeur, en fait. Les livres, on ne prend plus vraiment le temps de les lire, on les lit en diagonale, on lit le dernier primé, on regarde le dernier film, il faut avoir vu ça, il faut avoir vu telle série, tout est vraiment chronophage. Je trouve que c'est vraiment un luxe de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai envie de lire, je vais prendre ce livre, je vais prendre un Pushkin et puis je vais prendre mon temps pour le lire.
Et est-ce que vous pensez quand même que votre émission elle reste politique, malgré qu'elle soit assez atemporelle?
Dans quel sens?
La culture qu'elle propose un engagement pour un modèle, pour une vision.
Un engagement humaniste, alors, peut-être plus que politique.
Tout
est politique.
Oui, c'est pour ça. Et ce qui marque aussi dans votre émission, c'est que derrière une apparente légèreté, allégresse, vous parvenez à sonder en profondeur vos invités, à les pousser dans leurs recoins les plus intimes. C'est une volonté assumée, ça?
Non, justement, j'essaye de jamais être impudique. Je déteste le manque de pudeur.
Mais est-ce que c'est pas le meilleur moyen, justement, de...
Peut-être que comme les invités sentent... que ça va pas être impudique, ils se livrent plus facilement, mais je trouve ça très inélégant, en fait, le manque de pudeur, l'exhibitionnisme. Donc, je vais jamais au-delà des limites que je peux ressentir face à l'invité. Et je suis pas, il y a pas de voyeurisme dans cette émission.
Mais sans être impudique, la sensibilité des gens, leur sentiments, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement?
Bien sûr.
Et c'est dans votre émission, c'est ce que vous privilégier?
Je le privilégie pas, mais ça va de pair avec, avec les propos qui sont tenus. C'est-à-dire que si quelqu'un choisit ce livre ou ce film, ça m'intéresse énormément de savoir ce qui lui parle à lui dans ce film. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que... Donc je regarde toujours les films dont on va parler, je lis les livres qu'on va aborder. Et en fait, c'est jamais les mêmes choses qui nous frappent l'un et l'autre. Et c'est fascinant, cette subjectivité universelle, en fait, que pour la même œuvre d'art, chacun va en tirer quelque chose de différent.
Est-ce que du coup l'objectif de l'émission, c'est à travers ces différents contenus culturels qu'ils vous donnent, c'est de faire un autoportrait de la personne?
En fait, l'émission, elle pourrait avoir 3 objectifs. Le premier, c'est de faire en effet un portrait un peu atypique de l'invité. Le second, c'est de faire découvrir des petites pépites culturelles aux auditeurs, de leur donner envie de lire, de les enrichir. Moi, je suis enrichie à chaque émission. À chaque émission, j'apprends quelque chose en la préparant. Et la troisième chose, c'est de s'extraire de soi, donc d'être diverti de soi, de son nombril et donc de la mélancolie.
Pour les auditeurs autant que pour vous.
Oui.
Ok. Et alors que votre émission, elle fait de la mélancolie un principe universel, sentiment partagé par tous, vous vous efforcez d'y adopter chaque semaine un dynamisme sans faille. Comment fait-on pour être paraître heureux en radio toujours?
Je me force jamais.
Jamais?
C'est sans doute un des seuls moments où je suis absolument pas triste pendant. À la radio.
Oui. Mais pas, oui. Parce que c'est assez étonnant quand on vous écoute à chaque fois, on se dit, mais comment fait-elle si elle arrive à ce moment-là et qu'elle n'est pas heureuse pour paraître aussi dynamique?
Et ça m'est arrivé souvent. Hein. Parfois, j'avais de gros cafards juste avant une émission et puis d'un coup, l'émission commence et puis j'arrête de me regarder, donc je suis avec l'autre, je suis tournée vers l'autre. Et...
C'est un peu une thérapie aussi, la radio, du coup.
Non, parce que je tiens à la notion d'éphémère, c'est-à-dire que je ne crois pas au remède à la mélancolie. Okay. La mélancolie est là, on ne va pas s'échapper, mais on peut y échapper un tout petit instant, et c'est déjà un miracle. Moi, j'y échappe 1 heure par semaine.
Dans votre travail, quelle place vous accordez à la voix ?
Alors bon, je vais pas vous faire le coup de la fille qui déteste sa voix parce que ça fait vraiment poseuse, mais pourtant c'est vrai, la plupart des gens détestent leur voix, c'est très très compliqué de s'entendre puisqu'on n'a pas du tout la même voix que celle qu'on entend dans sa tête, et qui est plutôt celle de Barry White dans ma tête évidemment, mais en vrai pas du tout. Alors comme vous le voyez, comme vous l'entendez, je parle très très vite. Mais à la radio, je suis obligée de faire un effort pour parler moins vite. Ce qui est aussi plus facile, puisque comme je pose les questions, je parle beaucoup moins que l'invité. Ouais. Et ma voix se pose naturellement, mais évidemment, elle n'est pas pareille aujourd'hui qu'avant. Je pense que j'ai peut-être fait quelques progrès. Je pouvais moins la poser avant. Et j'essaie parfois d'articuler un peu avant les émissions, de lire des textes en articulant bien.
Et par exemple, il vous arrive de réécouter vos émissions pour essayer
Mais c'est pas bien de ne pas faire ça. Parce qu'en fait... vraiment, une fois, il y a un de mes confrères qui m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, pour faire des progrès à la radio, il faut s'écouter. Et c'est en s'écoutant qu'on se rend compte de tous ses défauts. Et je suis parfaitement d'accord avec lui, mais pour moi, c'est une torture. Je peux pas m'écouter.
Radio Poulpe sur Radio Campus Paris. Radio Poulpe sur Radio Campus Paris.
C'était I Need Love de Double Hill. Chaque mois, dans Radio Poulpe, on confronte deux générations d'acteurs de la culture. Aujourd'hui, c'est le journaliste Alain Le Gouguec, ancien rédacteur en chef de France Inter et président de Reporters sans frontières, qui se prête à l'exercice de la carte blanche. Alain Le Gouguec, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais de rien. Désiré pour moi.
De quoi est-ce que vous nous parlez ce soir?
Bah, je vous emmène au cinéma.
Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh ben, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, eh ben, après, les gens ne veulent pas vivre dedans.
Vous êtes raciste. Parce que je suis noir.
Non,
je suis noir.
Non,
vous...
non.
Ah, les Al-Qaïda, tout ça. Là. Oh là là, il faut sortir tout ça de la France. Là, dans les écoles même.
Je connais pas les Français de souche.
C'est rare qu'on en voit des purs Français.
Peut-être j'en ai déjà rencontré, mais peut-être j'ai les oubliés en fait.
Moi, j'ai réalisé une rencontre à Paris et je les considère comme des personnes normales.
Alors ça, c'est un extrait de Swagger. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, mais il faut aller le voir absolument. C'est un film d'Olivier Babinet. Il est sorti cette année, en 2016. Et il pose le décor dans une cité HLM d'Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, c'est une commune de près de 85 000 habitants, près de Paris, en Seine-Saint-Denis. Il est là parmi des collégiens de différentes origines. Certains viennent d'Afrique centrale, d'autres d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, d'Italie, que sais-je encore. Il y a un Indien, celui qu'on entend faire le Malien, en fait c'est un Indien de Pondichéry, qui est un excellent imitateur et qu'on retrouvera peut-être un jour sur scène. Et on découvre beaucoup de choses quand on entend les témoignages de ces jeunes gens, très jeunes gens, ils ont entre 13 ou 12 et 15 ans, quoi, en gros. Et on se rend compte, finalement, moi, la réflexion que je me suis faite en les écoutant, surtout, c'est qu'on cherche sans arrêt à offrir de la culture aux jeunes, notamment à travers la radio, mais on oublie parfois de les écouter. Et là, finalement, on est obligé de les entendre pendant une heure et demie, puisque c'est le propos même du film de Babinet. Alors, le film s'appelle Swagger. Swagger, ça vient d'un mot anglais qui a donné le swag en français, dans les cités, qui est le style, c'est avoir du style. Quand on a le swag, on a le style. Donc un swagger, c'est quelqu'un qui la ramène un peu, qui roule des mécaniques, etc. Ça, c'est le style. Le style, c'est l'apparence. Et derrière les apparences, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que permet de comprendre ce film. Savoir que derrière l'apparence de ces jeunes collégiens d'Aulnay-sous-Bois, eh bien, il y a des esprits qui pensent et qui voient, qui constatent des choses et qui sont tellement éloignés de la société qui est la société de la culture dominante. Parce que quand on parle de la culture, c'est la culture avec un grand C, c'est celle des élites. Des élites parisiennes, d'ailleurs, très souvent. On a souvent reproché à France Inter, d'ailleurs, d'être un peu la radio des élites. Je bats ma coulpe, puisque j'y ai passé quand même pas mal d'années à France Inter. Et d'être aussi la radio de la culture dominante, c'est-à-dire de la culture parisienne. J'aimerais revenir sur deux mots qu'on a souvent employés dans le débat politique, qui sont intégration et assimilation, à propos de ces jeunes gens qu'on dit de deuxième ou de troisième génération. Moi, le mot assimilation, je ne l'aime pas. C'est un mot très négatif, il est à sens unique. C'est-à-dire qu'on attend que les gens viennent, intègre la culture des autres, point barre. L'intégration, c'est un mot que je peux accepter parce que lorsque les gens s'intègrent, ils viennent aussi avec leur culture et si on fait l'effort de les écouter, finalement, on intègre leur culture. Prenez Picasso en France, qui lui-même était un étranger à la France. Quand il est arrivé, il a découvert un tas de choses. Qu'est-ce qu'il a découvert en France, notamment? Il est venu en France pour découvrir l'art africain. Lorsqu'il a découvert, il a vu son premier masque gabonais d'une ethnie qui est l'ethnie Bakota au Gabon. C'est un pays que je connais, j'y ai travaillé à un moment, j'ai même fait de la radio. Il a cassé les codes de la peinture. Donc ça a conduit au cubisme, il n'a pas été le seul. Matisse est passé par là aussi. Et donc, il a finalement pris, il a assimilé, lui, pour le coup, une culture qui venait de l'extérieur, comme lui, d'ailleurs, avec sa culture espagnole, catalane. Les Demoiselles d'Avignon, hein, c'est une rue de Barcelone, c'est la rue d'Avignon dans laquelle se trouvaient les prostituées, elles déambulaient. Les Demoiselles, ce sont des prostituées de Barcelone. Donc, la culture, elle ne peut pas être à sens unique. Elle doit voyager absolument dans tous les sens. Quand on parle des jeunes, de la culture et de la radio, il faut d'abord écouter les jeunes. Eux, ils écoutent, ils ont tendance à écouter ce qui s'est fait avant eux quand ils arrivent. Les groupes de rap, qui sont souvent constitués de gens issus de l'immigration, eh bien, s'inspirent très largement des musiques qui ont été écrites avant eux. Quand on écoute quelquefois ce qui se fait dans le rap, on va entendre un fond musical qui est inspiré de Brahms, qui est inspiré de Dvorak, qui est inspiré de Mozart, de Beethoven. Et on a eu, à une époque, au début des années 80, quelqu'un qui a été considéré véritablement comme une icône de la chanson française, Serge Gainsbourg, qui chantait ça avec Charlotte. Alors, on voit quelquefois, si vous regardez sur Internet, vous allez voir qu'il était l'auteur et le compositeur chez Gainsbourg. Non, pas du tout. Il était l'auteur, mais le compositeur, c'est pas tout à fait ça quand même, puisqu'il s'était largement inspiré d'une œuvre de Chopin qui s'appelle Tristesse. Alors pour faire plus sérieux, on va dire que c'est l'étude numéro 3 en mi majeur opus 10 de Frédéric Chopin. Mais on peut dire Tristesse, c'est beaucoup plus simple et plus facile à retenir. Déjà, c'est un effort qu'on peut faire en direction des jeunes. Moi, je me souviens d'un débat qu'il y a eu dans une conférence de rédaction à France Inter, c'était au début des années 80, ça ne rajeunit pas, mais je suis un très vieux journaliste, à propos d'une œuvre de Verdi qui était Aïda, qu'on devait donner à Bercy. Bon. À l'époque, le chef du service culture de France Inter s'était offusqué en disant « Vous vous rendez compte, Aïda à Bercy, mais l'acoustique est pourrie, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pervertir une œuvre majeure du répertoire. » Quoi ? L'œuvre majeure ? Lui aurait voulu qu'on donne cette œuvre à l'Opéra Bastille, peut-être, mais à l'Opéra Bastille, les concierges de Paris et leurs enfants n'y seraient pas allés à Bercy. Il y avait peut-être une chance pour qu'ils y aillent, qu'ils découvrent finalement quelque chose, une œuvre à laquelle ils n'auraient jamais eu accès. Donc, je pense qu'il est important d'abord d'écouter les autres, essayer de les comprendre, pour savoir exactement par quelle fenêtre on peut passer, pour faire souffler un petit vent, un vent culturel qui, à un certain moment, va leur donner de l'inspiration. Je connais un prof de français, je le connais même bien puisque c'est mon fils, qui a fait une chose que j'ai trouvée extraordinaire cette année avec ses élèves dans une cité pas facile, une commune pas facile de Normandie. Il a décidé, pour leur faire comprendre son tissu de l'immigration, pour leur faire comprendre ce qu'était la mythologie, les mythologies grecques et romaines. Il s'est dit, en examinant ces mythologies, comment est-ce que je peux les intéresser ? Finalement, ce sont des histoires de dieux ou de demi-dieux, mais en fait, ce sont des histoires d'hommes et de femmes. Il y a de la jalousie, il y a de la vengeance, il y a des rancœurs, de la rancune, il y a des meurtres, des crimes passionnels, etc. Mais de quoi on parle ? On parle de ce qu'il y a dans la presse People. Donc, il a pris des journaux de la presse People, il a fait travailler ses élèves dessus, il leur a dit, maintenant, vous prenez les héros de la mythologie et vous réécrivez leur histoire façon People. Ils l'ont fait, ils ont titré, ça a donné un journal qui s'est appelé Peplum. Et je vous assure qu'ils connaissent maintenant les éléments, les héros de la mythologie, des mythologies grecques et romaines. Voilà ce que je voulais dire à propos de la culture des jeunes et de la radio, qui a beaucoup à faire dans ce sens-là, parce que la radio, elle parle aux gens, mais parfois, elle oublie de les écouter.
Eh bien, merci beaucoup Alain Le Gouguec pour cet éclairage sur la jeunesse d'aujourd'hui. Eva Bester, une réaction peut-être ?
Je suis très contente d'avoir entendu ça. C'est une réaction vraiment inutile, mais...
Maintenant, j'aurais une question à vous poser à vous deux. Est-ce que vous pensez qu'un rôle primordial des médias et encore plus de la radio aujourd'hui, c'est d'encourager justement ce dialogue intergénérationnel ?
Moi, ça me semble absolument évident. Eva travaille à France Inter. Elle sait qu'à France Inter, on a toujours un problème avec la jeunesse. La prime de jeunesse, dirais-je. Il faut voir de quelle jeunesse on parle en plus et même de quelle culture on parle. Parce que la culture, comme je le disais, c'est souvent la culture avec un grand C, mais on oublie que la culture, quelle est la définition de la culture ? Moi, j'aimerais que quelqu'un définisse un jour ce qu'est la culture. Parce que là, on parle d'une certaine manière, on fait œuvre culturelle. Donc, c'est tellement large. Alors quand on restreint le champ de la culture, évidemment, on a tendance à restreindre aussi le champ des générations. Et la grosse difficulté à France Inter, c'était d'essayer de gagner des auditeurs plus jeunes. Mais on sait qu'on arrive à les gagner quand ils écoutent aussi Campus, parce qu'ils sont étudiants et qu'ils accèdent à une nouvelle forme de savoir qui, d'un seul coup, va ouvrir leur curiosité. un peu plus bas, un peu plus jeune et dans des catégories sociales moins favorisées, ça devient là nettement compliqué. C'est là où je pense qu'il faut véritablement, comme l'a fait Babinet avec le cinéma, il faut aller sur le terrain un maximum. Il faut vraiment y aller, quoi. Et faire de la culture et de la radio, je voulais d'abord dire de la radio, mais vous voyez, je dis de la culture, faire ça sur le champ même d'investigation des journalistes, quoi, sur le terrain, au milieu des cités, sans avoir peur de se faire piquer son matériel, évidemment, eh bien, ça peut payer, je pense.
Eva ?
Alors, je suis parfaitement d'accord et j'adhère totalement à cet engagement. Maintenant, si je suis honnête, je sais pas ce que je fais avec mon émission, puisqu'elle est enregistrée en studio et donc elle n'est pas en public, puisque c'est une émission très intimiste. En revanche, je suis parfaitement d'accord, il faut s'adresser à toutes les générations, et je pense à des choses, il y a des engagements à prendre. Je reviens toujours aux bibliothèques municipales, mais je sais qu'on peut aller faire lire des gens dans des quartiers justement où la lecture n'est pas une priorité. Et bon, alors là, tout le monde peut me tomber dessus en disant « oui, ils en ont d'autres, des priorités ». Oui, mais là, on parle de culture. Donc, je dis en tout cas qu'on peut s'engager sur des choses, aller faire lire des jeunes sur place. Je sais que, en tout cas, à petite échelle, avec l'émission de radio, quand il y a des gens qui viennent me voir en disant « moi, je lis jamais », mais quand vous avez parlé de ce livre, d'un coup, j'ai vraiment eu envie de le lire. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, justement, j'essaie de montrer ce que ça peut avoir de contemporain. Et même dans les livres... les plus classiques ou les plus anciens, il y a toujours quelque chose de contemporain, puisqu'à partir du moment où on parle de l'humanité, ça nous concerne. Donc, je suis en train de m'éparpiller. Mais oui, la culture, bien sûr, et voilà.
Oui, et je pense aussi que quand on peut enregistrer une émission de radio dans un quartier dit difficile, qui n'a pas toujours accès à la culture, qui n'a pas une bibliothèque à proximité ou qui ne fera pas l'effort d'aller à la bibliothèque municipale, sauf sous l'impulsion d'un enseignant, évidemment, parce que les profs font un boulot formidable. Mais y aller et distribuer des livres, ce serait autre chose, je pense. Parce que les offrir, faire don d'un livre, quand on le reçoit, je vous assure qu'on a vraiment envie de mettre le nez dedans, quoi.
Alain Gouguec, on sait que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est pleine d'incertitudes et elle fait face à une époque des plus exigeantes, avec énormément de défis. Selon vous, quel rôle peut jouer justement les médias et les médias culturels pour émanciper ces jeunes et leur comprendre, leur faire prendre conscience des enjeux citoyens ?
D'abord, leur parler un langage de vérité, éviter de tourner autour du pot, éviter la langue de bois... certainement, se dire déjà conscient de ce qu'ils vivent. Moi, je suis effaré de l'état de précarité dans lequel on a plongé la jeunesse dans ce pays depuis quelques années. J'ai eu la chance, moi, de sortir vraiment sur le marché du travail juste à la sortie, à la fin des Trente Glorieuses, au moment où il venait juste d'y avoir deux chocs pétroliers et où le chômage commençait à venir. Donc, hop, j'ai mis le pied dans la porte et je suis passé, ce qui m'a permis d'avoir une vie magnifique. Mais quand j'ai vu la difficulté qu'il y avait derrière, moi, vous savez, j'ai Bac plus 2. Aujourd'hui, Eva tout à l'heure disait être entrée comme assistante à Radio France, mais vous verriez le niveau, les CV des assistants à Radio France, mais vous avez des gens là-dedans qui ont des doctorats, qui
ils
ont,
sont plus diplômés que moi.
Il y a des agrégés, c'est hallucinant. Et plus vous allez, plus le temps passe et plus les gens sont diplômés. Pour des boulots qui sont des boulots d'une extrême précarité, avec des contrats à durée déterminée qui n'arrêtent pas de s'aligner, et pour finalement des émoluments qui sont quand même très dérisoires, quoi, qui permettent à peine de vivre, en tout cas dans une ville comme Paris, quand c'est à Paris. Quoi. C'est...
Eva Bester, vous de votre côté, quel rapport vous développez à notre époque et à ses enjeux ?
Vous voulez savoir le rapport que j'ai à l'époque, tout simplement.
Non, mais par exemple, aux enjeux politiques, aux défis de notre époque en tant que jeune. Est-ce que vous sentez animé d'un défi pour l'avenir en tant que jeune? Par exemple, face à la crise des populismes ou face à des crises humanitaires comme en Syrie, est-ce que ça vous touche ou est-ce que...
Non, alors ça me touche évidemment. Oui. En tant qu'être humain, ça me touche profondément. Ça, après, je ne fais pas une émission qui s'engage sur ce terrain. Moi, ma façon de m'engager, elle peut n'être qu'à petite échelle. C'est par exemple faire entendre des voix francophones d'autres pays, faire découvrir des cultures qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je pense...
Oui, mais si je vous pose cette question, c'est que, justement, ce que je disais tout à l'heure, votre émission, elle apparaît un peu comme une bulle de temps assez intemporelle, du coup.
C'est pour ça qu'elle ne peut pas s'inscrire, en fait, dans l'actualité.
On se demande, vous, quel rapport vous avez à notre époque, parce que vous paraissez aussi totalement intemporel quand on vous écoute.
Oui. En fait, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de collé aux journaux, aux dépêches, aux nouvelles qui tombent. Je suis évidemment au courant des enjeux du monde, je suis évidemment au courant de ce qui se passe dans le monde, et ça me touche profondément. Mais une fois de plus, je pense que délibérément, j'essaie de créer cette bulle.
Okay.
Je sais qu'elle n'est pas... J'essaie de la rendre accessible à la majorité, en fait. Et surtout, la radio, j'y pense là, mais c'est quand même un média qu'on peut recevoir presque partout dans le monde.
Aujourd'hui, à l'heure où la société et les médias se caractérisent par une course à l'image, au scoop ou encore au buzz, comment faire justement pour que cette radio, traditionnellement, ce qu'on disait, un média de temps long, davantage dans l'analyse que dans le commentaire, reste une source d'information populaire et influente?
On y pense tous les jours, on y réfléchit collectivement et on essaie jour après jour, événement après événement, de trouver la meilleure adaptation, la plus juste. C'est pas toujours facile. La rapidité d'une part, la vitesse des choses, le fait qu'on ait multiplié ces dernières années les canaux d'information rapides et permanentes, ça a mis une pression terrible. Évidemment, le poids de l'économie sur les médias, parce que regardez en France, je me souviens d'une époque maintenant qui me paraît tellement lointaine, où on n'arrêtait pas de parler du lobby militaro-industriel américain, on avait que ça à la bouche. Le lobby militaro-industriel en France, dans les médias, il est quand même très important. Regardez les médias français, ils se répartissent entre des gens comme Dassault, comme Lagardère. Ce sont des gens qui ne fabriquent pas des carottes, quoi. Et ils ont des intérêts économiques. Alors, il y a le luxe, évidemment, derrière. Il y a le nom d'un monsieur qui commence par B, je ne vais pas le prononcer, parce que lui, il tient pas mal de médias, notamment une chaîne un peu cryptée. Il fait des procès dès qu'on prononce son nom quelque part, donc on va éviter ça. Mais la situation est extrêmement compliquée, et pour les journalistes, déjà, le simple fait de réfléchir à ce qui va pouvoir être dit sur l'antenne devient compliqué. Donc, savoir trouver le meilleur angle d'attaque et la meilleure façon de parler des choses pour conquérir le public le plus large.
L'émission d'Eva Bester, par exemple, c'est un exemple de réussite en faisant du journalisme autrement, quand même, quand on voit le...
Ça, mais c'est un exemple de réussite, de toute façon, ne serait-ce que pour parler en termes d'audience, quand on dit 1 million d'auditeurs, Eva ne s'en rend pas bien compte. Moi, les journalistes m'agacent, mes confrères m'agacent quand ils disent ça fait tant de stades, c'est-à-dire que le stade est devenu maintenant une nouvelle mesure. Eva, dites-vous que 1 million d'auditeurs, ça fait beaucoup de stades de France, puisque le stade de France, c'est 80 000 personnes. Vous imaginez le nombre de stades de France que vous avez ? C'est extraordinaire. Et des gens comme moi qui sont nus dans leur salle de bain à l'heure où vous parlez.
Mais oui, parce c'est ce que vous m'avez dit en antenne. Je suis ravi de l'apprendre.
Moi, je suis nu dans ma salle de bain au moment où vous parlez. Je vous écoute tous les week-ends.
Moi, je suis nu en studio pendant l'émission.
Ouais, il faudra que je repasse à la maison de la radio. Mais. Oui, elle fait quelque chose. Elle est dans un genre qui est un genre en plus qui a toujours fait les beaux jours d'Inter et elle porte le flambeau merveilleusement bien. C'est l'émission intimiste. Mmh. C'est-à-dire que celle qui va vous captiver, c'est-à-dire vous rendre captif, vraiment. Ça vous capture, vous êtes là, et à un moment, vous lâchez plus. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas tout ce temps à passer dans la salle de bain, en fait. Je pourrais très bien abréger mon séjour. Mais c'est là, et je me dis, si j'éteins le poste, que je monte, que j'en allume un plus haut, je risque de perdre quelque chose. En fait, quelque chose me parle comme ça, inconsciemment. Mais elle est dans un genre particulier, qui est le genre intimiste, et c'est un genre qui est nécessaire. Elle évoquait tout à l'heure, elle parlait d'un mot, elle disait bulle. Elle nous met dans sa bulle quand on l'écoute. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça parce que les temps sont durs. Si certains de ses invités, d'un seul coup, ont besoin à un moment de délivrer un message, c'est pas à elle de le faire. Elle les invitera peut-être même pas explicitement à le faire. Ils vont le faire spontanément parce que d'un moment, la question va les orienter vers ça ou ils penseront qu'ils ont vocation à le dire. Mais ils nous entraînent dans leur monde aussi. Et je vous assure qu'on est dans la bulle d'Eva et de son invité. On s'invite dans la bulle, on se glisse dedans. Et c'est drôlement important parce que c'est une forme de cocooning. Ça nous fait du bien, ça nous fait réfléchir, ça ouvre l'esprit. Et ça permet aussi d'avoir envie d'aller voir quelque chose, d'aller voir un film, d'ouvrir un livre et de faire autre chose que de s'inquiéter en examinant l'état du monde.
Justement, pour parler de livres, en cette fin d'année, Eva Bester, vous publiez un livre consacré au remède à la mélancolie qui ponctue vos rendez-vous du dimanche matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ?
Bien sûr, mais est-ce que je peux juste rebondir très rapidement à ce que disait Alain ? D'abord, je voulais merci beaucoup, je suis très flattée par ce que vous venez de dire. Vous êtes le bienvenu dans cette bulle, ainsi que tous les auditeurs, vraiment. Et en fait, tout à l'heure, Jules, si j'ai eu du mal à répondre à votre question, quand vous abordiez les enjeux du monde et ce qui se passe, les tragédies, c'est parce que... En fait, ça ne traite tellement pas de ça que je ne me sentais même pas légitime pour répondre à cette question. Et deuxièmement, en fait, vous parliez d'engagement. Et je pense que l'engagement, c'est justement ça. C'est qu'il y a presque une sorte de devoir avec cette émission de pas... Si l'invité a envie d'aborder ces sujets-là, il peut évidemment le faire. Mais ce n'est pas le but de l'émission. Par exemple, vous demandiez si ça me touchait quand il y avait une tragédie. Évidemment, je pense aux attentats qui ont eu lieu à Paris. Et ben, à chaque fois, c'était un peu compliqué de reprendre, puisque c'était toujours quelques jours après qu'avait lieu l'émission. Et parfois, la direction me disait, faudrait que tu fasses une émission spéciale sur la résilience. Ben, dans ces cas-là, je disais non, parce que je peux pas. C'est pas possible, c'est trop récent, je suis pas une journaliste d'actualité, j'ai pas la légitimité. Et puis, par respect, par décence pour les gens, pour les invités, on peut pas faire comme si c'était la fête et comme si on était dans la résilience. C'est pas vrai, en fait. Je m'inscris dans le temps long, délibérément, et en cela, je peux pas, en fait, répondre à mon rapport au monde et aux enjeux géopolitiques. Voilà, ça, c'était la chose que je voulais dire absolument. Quant au livre, bien sûr que je peux vous en dire plus, c'est un livre, ça s'appelle « Remède à la mélancolie » au pluriel. Et j'ai sélectionné une centaine de remèdes sur les premières saisons qui m'ont particulièrement plu. Je cite un peu les invités sur ce qu'ils ont dit sur ces remèdes lors des émissions, mais surtout je les chronique chacun subjectivement. Donc c'est vraiment un livre indépendant de l'émission. Il y a aussi une histoire de la mélancolie que j'ai essayé de faire dedans. Il y a mes propres remèdes. Il y a différents rapports à la mélancolie qui sont explicités. Il y a des introductions, des préambules, la définition du nuage de spleen. Je vous encourage à découvrir du vocabulaire, des synonymes, parce que je tiens beaucoup au vocabulaire. J'avais qu'une hantise au début quand j'ai commencé l'émission, c'est que je me suis dit comment je vais faire pour pas me répéter à chaque fois en disant spleen, mélancolie, tristesse. Et donc j'ai appris plein de synonymes, parce que j'étais terrorisée à l'idée de me répéter. Voilà.
Merci beaucoup Eva Bester d'avoir été notre invitée.
Avec grand plaisir.
Merci aussi à Alain Le Gouguec d'être venu nous faire sa carte blanche. Et merci à Louis Julien à la réalisation. On se quitte en écoutant le titre Air Sky H1 sur Radio Campus Paris. Radio Poulpe, une émission produite et présentée par Jules Bruxelles.